RCF.
Autre élément clé ou virage dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en France qui explique que l'on s'engage en résistance, Fabrice Grenard, c'est peut-être d'ailleurs l'élément le plus connu, c'est l'apparition du STO, le travail obligatoire en Allemagne, qui intervient en février 1943. Des tas de jeunes gens français vont refuser de partir et choisir le maquis. Il faut resituer ce STO dans le déroulement de la guerre.
Oui, lors de son retour au pouvoir au printemps 1942, Pierre Laval avait mis en place le système dit de la relève, qui était basé sur le volontariat. Trois ouvriers français qui partaient travailler en Allemagne permettaient le retour d'un prisonnier de guerre. Mais ça ne fonctionne pas parce que peu de Français sont volontaires pour aller travailler en Allemagne. Et donc, le gouvernement de Vichy va finalement recourir à la réquisition. Dès l'automne 1942, avec une loi du 4 septembre qui permet de réquisitionner des travailleurs, mais sur des critères professionnels. Et puis surtout, donc, en février 1943, avec le service du travail obligatoire, qui oblige tous les jeunes Français nés entre 1920 et 1922 à aller travailler en Allemagne. On est juste après février 1943, la défaite de Stalingrad. Le cours de la guerre est en train de changer. Et du côté allemand, on met en place ce qu'on appelle la guerre totale, c'est-à-dire qu'il faut essayer de mobiliser toutes les ressources disponibles pour la guerre. Il faut aussi toujours plus accentuer l'exploitation, bien sûr, des pays occupés en faveur de l'effort de guerre allemand.
Pourquoi est-ce que les jeunes Français ne veulent pas partir?
Alors, les jeunes Français, d'abord, il y en a qui partent. Il faut quand même rappeler que plusieurs centaines de milliers de Français vont partir travailler en Allemagne. Tout simplement, lorsqu'ils reçoivent leur convocation, ils obéissent. C'est une loi française qui leur demande de satisfaire au STO.
D'autres désobéissent.
Maintenant, d'autres désobéissent pour différentes raisons. Certains par patriotisme, ils refusent de servir l'effort de guerre allemand, c'est pas possible pour eux. D'autres pour des raisons, je dirais bien plus pragmatiques. Ils ne veulent pas quitter leur famille, une fiancée. Ils ne veulent pas non plus aller dans des usines allemandes qui sont quand même, en 1943, déjà très largement bombardées par l'aviation alliée. Donc il y a un vrai risque là de mourir dans des bombardements en Allemagne. Donc tous ces facteurs expliquent qu'effectivement se développe le phénomène dit des réfractaires, ceux qui ne veulent pas partir travailler en Allemagne.
Et parmi ces réfractaires, un certain nombre décide de rejoindre ce qui commence aussi à être connu, à savoir le maquis. Là encore, il faut préciser ce qu'on entend par maquis et maquisard.
Le maquis est un phénomène, effectivement, qui est une conséquence directe du STO. Certains des réfractaires ont des solutions de cache individuelles dans leur propre réseau, dans leur famille. Ils vont se cacher à la campagne, chez des grands-parents, chez des cousins. Mais certaines catégories de gens n'ont pas cette possibilité-là. Et donc, ils vont chercher à se cacher de façon collective, avec des regroupements qui vont s'opérer autour de camps, dans les forêts, dans les montagnes, essentiellement de la zone sud. Et c'est comme ça qu'apparaît le phénomène maquis. On utilise une expression corse de prendre le maquis.
Et donc là, il bascule dans une forme d'illégalité. C'est même l'illégalité totale.
Alors, à partir du moment, de toute façon, où ils refusent le STO, ils deviennent hors la loi. Donc, ils sont susceptibles d'être recherchés par la police française. Et bien sûr, en rejoignant le maquis, ils sont dans une vie clandestine totale. D'ailleurs, lorsqu'ils arrivent au maquis, ces jeunes, souvent, on leur demande de changer de nom. Et ils doivent, bien sûr, rompre absolument tout contact avec leur famille et leurs amis.
C'est un peu un non-retour, le maquis.
Ah oui, c'est un non-retour. On brûle ses vaisseaux, comme on disait dans la marine. On s'engage à participer aux activités du camp et à la lutte jusqu'à la fin de la guerre, bien sûr.
Mais alors, puisque le maquis est clandestin, comment est-ce que ces jeunes entrent-ils en contact avec des membres du maquis pour les rejoindre? Il n'y a pas de guide.
Il y a des guides, bien sûr. Voilà. Tout l'enjeu est de trouver ce guide qui, lui seul, connaît l'emplacement exact du maquis. Alors, très vite, en fait, des rumeurs se développent sur l'apparition de maquis, notamment dans les Alpes. Rumeurs qui sont relayées par la radio suisse et par la radio de la France libre. Donc, les jeunes Français savent que dans les Alpes, le Jura, le Massif central, apparaissent des maquis. Maintenant, où sont-ils? Ça, c'est une autre question. Et bien des jeunes, effectivement, arrivent à la gare d'Annecy, à la gare de Grenoble, en cherchant une filière, un moyen d'entrer en contact avec quelqu'un qui les mènera au maquis. Et ça peut parfois prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Il faut être patient et très observateur.
C'est ça. Et puis, la chance joue parfois son rôle. Il y en a qui établissent le contact avec la filière très vite ou qui ont dans leur famille des gens déjà engagés en résistance, donc qui vont pouvoir jouer un rôle d'intermédiaire.
Je suis venu ici, bien sûr, pour accompagner le président de la République qui rend hommage tous les ans au plateau d'Aiglières et à la personne de mon père, Tom Morel, qui commandait ce plateau d'Aiglières. Le président tient effectivement à rendre hommage à tous les morts d'Aiglières et en particulier à ceux des chefs, le lieutenant Tom Morel et le capitaine Angeau. Je pense que c'est non seulement important, mais essentiel pour la vie de notre pays, pour la France. Rappeler effectivement que cette France est libre actuellement grâce à certains de ses enfants qui se sont sacrifiés pour elle pendant la dernière guerre, en particulier dans la Résistance.
La suite de l'histoire.
On entend donc là Fabrice Grenard, le fils de Tom Morel, résistant, maquisard. Le plateau d'Aiglières étant un des lieux phares, un des lieux très symboliques de cette résistance via le maquis. Vous, dans votre livre, vous consacrez de nombreuses pages à Marc Serratris, un jeune français de 20 ans qui fait partie de ceux dont vous parliez il y a un instant, c'est-à-dire qui se met en quête d'un réseau qui lui permettra de rejoindre le maquis.
Effectivement, l'idée, c'est de confronter à la fois les chefs. Tom Morel est un militaire de carrière qui va devenir le chef du maquis d'Aiglières. Et puis une autre histoire qui est celle de Marc Serratris. Marc Serratris, c'est véritablement un maquisard ordinaire. C'est un jeune étudiant, il vient d'avoir son baccalauréat. Il aimerait poursuivre ses études pour devenir instituteur, mais il reçoit la fameuse convocation pour aller travailler en Allemagne. Il habite Grenoble. Et son choix est vite fait, il décide de prendre le maquis. La filière pour lui sera facile à trouver puisque sa sœur est engagée dans un mouvement de résistance, le mouvement franc-tireur, et elle a donc les contacts nécessaires qui permettront une prise en charge de son frère pour l'amener jusque dans un camp sur le plateau du Vercors.
Concrètement, ça mène à quoi le maquis? Qu'est-ce qu'on y fait?
Alors, lorsqu'on rejoint le maquis à l'été 1943, comme c'est le cas pour Marc Serratris, bien souvent, on se dit que l'expérience ne va durer que quelques semaines ou tout au plus quelques mois, puisqu'une rumeur persistante laisserait croire qu'un débarquement allié sur les côtes françaises pourrait avoir lieu à la fin de l'été, au début de l'automne 1943. Or, il n'en est rien. Du coup, l'expérience au maquis va durer plus d'une année. Pour des jeunes qui, bien souvent, étaient plutôt originaires d'un milieu urbain et n'étaient pas du tout habitués à vivre dans des conditions un petit peu extrêmes, hein, en montagne, en altitude, et qui vont donc devoir en quelques semaines se former pour apprendre à devenir des alpinistes, des skieurs et aussi des combattants, puisque l'idée, bien sûr, c'est que quand le maquis aura reçu des armes des alliés, quand sera déclenchée la bataille pour la libération de la France, les maquis seront les fers de lance de la lutte armée en France.
D'un côté, une vraie vie de camp s'organise entre ces jeunes hommes ou ces hommes. Peu de femmes dans le maquis.
Oui, même pas. Les femmes peuvent jouer un rôle dans les maquis en tant qu'agents de liaison, en apportant du ravitaillement, mais elles ne séjournent pas de toute façon dans les camps. Pour des raisons liées aux représentations de l'époque, les femmes ne combattent pas. Et puis, il y avait aussi une question de promiscuité. Il n'était pas possible de mettre une ou plusieurs femmes au milieu dans un univers totalement masculin.
On s'organise, on apprend à vivre, on attend beaucoup aussi. Par contre, il y a aussi, comme vous le disiez, des moments de combat, d'attaque, de sabotage.
Voilà, le maquis, c'est d'abord effectivement survivre en forêt, en montagne. Donc il faut s'organiser, il y a beaucoup de corvées, il faut construire des baraquements, il faut organiser des filières de ravitaillement, tout ça est très compliqué. Et puis petit à petit, le maquis va aussi s'imposer localement dans les territoires où il se développe comme un contre-pouvoir. Donc on va contrôler les populations locales, on va parfois mener de façon assez précoce une première épuration contre les collaborateurs, les délateurs qui peuvent vivre à proximité du maquis. Et puis, au fur et à mesure où l'heure de la libération approche, on se prépare aussi au combat. Et la plupart des maquis passeront à l'action dans le contexte du débarquement allié.
Au maquis, on trouve toutes sortes de personnes avec des convictions probablement aussi très diverses. Des catholiques, des communistes, des juifs, des patriotes, voire des nationalistes.
Une majorité de maquisards sont des réfractaires au STO. Donc ils ont comme point commun d'être jeunes. Mais certains étaient ouvriers, avaient quitté l'école à 14 ans, travaillaient déjà en usine. D'autres étaient étudiants, donc plutôt issus d'un univers bourgeois, donc effectivement des écarts sociaux très importants. Certains, effectivement, étaient plutôt engagés à gauche, plutôt très laïcs, donc d'autres pouvaient être catholiques et avoir des idées de droite. Et puis on a aussi des catégories assez particulières, puisque rejoignent les maquis des étrangers, réfugiés en France, comme les républicains espagnols, par exemple. Et effectivement, il faudra amalgamer ces différentes catégories de personnes pour trouver une unité au maquis. Mais tous les témoignages montrent que les diversités n'empêcheront pas effectivement la camaraderie et le sentiment aussi de partager un destin commun de l'emporter.
L'histoire des maquis est marquée par la fin tragique de certains d'entre eux, en particulier dans le Vercors. Des commémorations comme celle évoquée tout à l'heure ont lieu assez fréquemment pour ne pas oublier ces hommes qui se sont sacrifiés.
Ces jeunes maquisards qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, qui manquaient de moyens, qui manquaient d'armes, ne pouvaient pas affronter les Allemands dans le cadre de combats réguliers de type frontaux. Et à chaque fois que les maquis essaieront d'affronter les Allemands, cela se terminera souvent par des drames. Mais ça a aussi permis, et ça c'est très important, à la résistance française d'avoir ses batailles et de montrer que la France finalement était bien dans le camp de ceux qui combattaient avec les Alliés.
Merci beaucoup et à demain pour le dernier rendez-vous de cette série.